Carrefour des arts.
On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Carrefour des arts sur Canal Académie avec Christine Surgens, les mirages de l'art contemporain aux éditions de La Table Ronde, avec une exploration dans un domaine que l'on connaît finalement assez peu, qui est celui de l'art contemporain. À quelle définition d'ailleurs répond-il ? Dans quelle mesure doit-on s'apercevoir, alors éventuellement de sa nocivité, puisque vous, disons-le tout de suite, vous êtes assez critique. Vous n'allez pas faire la promotion de l'art contemporain, mais vous allez nous aider à discerner justement ce qui, dans l'art contemporain, doit retenir notre attention du point de vue des valeurs que nous défendons ici même à l'Académie des sciences morales et politiques, des valeurs qui sont rattachées au beau, au bien et au vrai, un tant soit peu. Christine Surgens, bonjour d'abord.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous parler de cette enquête que vous avez réalisée et pour laquelle il n'existe pas vraiment de précédent. Personne
non,
ne s'est jamais interrogé sur l'art contemporain ?
Si, il y a plusieurs auteurs comme Jean Clerc, Jean-Philippe Domecq. Enfin, il y a... Mais c'est vrai que j'ai essayé vraiment de réactualiser toutes ces velléités d'approche, puisque maintenant on a la chance d'avoir du recul par rapport justement à ces nouvelles idées qui avaient été émises sur le fait de définir l'art autrement, de pratiquer l'art autrement. Et là, je crois qu'on a maintenant un bon dossier pour effectivement apprécier, évaluer, analyser. Mais je crois qu'il faudrait tout de suite bien préciser ce qu'on entend par contemporain. Parce que normalement, contemporain, c'est un adjectif temporel. Donc, ça veut dire l'art des artistes vivants, l'art de notre époque.
Ça ne définit pas un contenu, normalement.
Voilà, ça ne définit pas un contenu. Mais quand on fréquente déjà les centres d'art officiels, les centres d'art qui ont pignon sur rue, qui sont subventionnés ou qui font partie du grand mécénat, on s'aperçoit qu'on a à l'intérieur, non pas l'art de nos contemporains, mais d'une toute petite partie de nos contemporains. C'est donc un label, c'est donc une sorte de genre ou d'usage très particulier de l'art. Et puis quand on va faire des petites incursions dans les articles, les livres, les discours sur l'art contemporain, on trouve une définition du terme contemporain qui est quand même très éloignée de ce que l'on conçoit, je dirais, spontanément. Par exemple, il y a un ouvrage qui vient de paraître qui s'appelle « Devenir contemporain » et qui définit le contemporain, je cite, « est contemporain ce qui lutte contre ce qui est ». Hein, E-E-S-T. « Est contemporain ce qui lutte contre ce qui est ». Donc c'est déjà une définition très éloignée de celle, je dirais, du commun des mortels lorsqu'ils pensent au terme contemporain sous un aspect purement temporel.
L'idée de lutte, c'est toujours de s'opposer à quelque chose.
Oui.
Ce qui contredit l'idée d'institution. Soit si on lutte contre ce qui est, c'est
oui,
que...
Oui, et puis l'idée d'harmonie qui était souvent accolée avec le terme d'art. Et c'est vrai que lorsqu'on donc s'aventure dans ces centres d'art, la première chose qui frappe aux yeux, c'est que tout peut devenir de l'art contemporain. Vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, une baraque à moules dans un musée, c'est de l'art contemporain. Vous pouvez avoir quelqu'un qui se promène dans la rue et qui vous serre la main, c'est aussi de l'art contemporain. On va même dire que c'est de l'esthétique relationnelle. Vous pouvez avoir quelqu'un qui monte un parti politique, ça ne sera pas de la politique. Si c'est un artiste, ce sera de l'art contemporain. Vous organisez un combat de boxe avec les frères Turpin dans une galerie, ça n'est pas du tout du sport. Attention, c'est une performance et on est toujours dans le registre de l'art.
Mais qui met son estampille pour dire c'est de l'art contemporain ?
Voilà, alors ça va nous obliger justement à remonter à l'origine de cet art et à remonter à Duchamp. Parce qu'effectivement, pourquoi est-ce que tout d'un coup, tous les objets, n'importe quel objet, voire n'importe quelle conduite peut rentrer sous ce label d'art dit contemporain ? Eh bien, c'est grâce à un certain Marcel Duchamp qui a inventé le ready-made. Alors le ready-made, c'est au début du siècle. Le
ready-made, traduction française.
Objet tout fait, déjà prêt. Enfin, c'est un objet prélevé dans la vie quotidienne et qui devient œuvre d'art par la volonté de l'artiste. Donc Duchamp, un des plus célèbres ready-made qui, à mon avis, est celui qui est emblématique pour ce qui nous intéresse, c'est la fameuse fontaine de Duchamp, qui est en fait une pissotière. Donc Duchamp a pris une vulgaire pissotière sanitaire voilà, en porcelaine et il l'a baptisée œuvre d'art. Et là, je crois que c'est vraiment le point de départ de ce qui, bien plus tard, s'appellera art contemporain.
Vous qui êtes historienne d'art, avant de continuer sur Duchamp, est-ce que l'on s'est aperçu à l'époque de Duchamp, et ça commence quand même à remonter, de la portée révolutionnaire de cet acte ?
Probablement pas. On a bien vu effectivement que Duchamp introduisait du nouveau. Ça, c'est sûr qu'il cherchait à poser une question. C'est la question que vous m'avez posée, c'est-à-dire que qu'est-ce qui décide qu'une œuvre est une œuvre d'art ? Est-ce que c'est moi, Duchamp, qui en prenant cet urinoir va dire que c'est une œuvre d'art ? Ou est-ce que c'est le comité de sélection du Salon des indépendants à New York, qui, entre parenthèses, à l'époque, est un organisme d'avant-garde ? Donc là, Duchamp, en quelque sorte, introduit un ferment de contestation au sein même de l'avant-garde. Bon. Donc Duchamp pose un certain nombre de questions sur qu'est-ce qu'une œuvre d'art. Vous savez qu'il signe le seul petit travail auquel il va se livrer, c'est une signature de cet urinoir. R, mat, ça veut dire signer idiot, en fait. C'est un jeu de mots avec le slang américain. Donc là, on a effectivement un travail, on pourrait dire, de désacralisation de l'œuvre, de désacralisation de l'artiste, puisque c'est signé idiot. Et puis, on s'attaque aussi à cette institution. Et ironie du sort, le succès de Duchamp va faire que quelques décennies plus tard, il va se retrouver donc canonisé pape de l'art contemporain, puisqu'on trouve ça couramment dans les textes qui traitent de cet art, et que, au fond, lui qui voulait désacraliser tout ça, eh bien finalement, l'institution s'est sacralisée à travers les ready-made, la pissotière de Duchamp est sacralisée, puisque vous savez qu'elle a été attaquée par un dénommé Pinoncelli et que Beaubourg s'est battu auprès des tribunaux pour vraiment faire reconnaître l'intrinsèque valeur, etc. Bon. Et que M. Paquement, directeur du musée d'art moderne, nous a expliqué que s'attaquer à la pissotière de Duchamp, c'était aussi grave que s'attaquer à la Pietà de Michel-Ange.
Et que ça a coûté une fortune à faire restaurer,
voilà,
entre parenthèses.
Mais,
la correspondance est quand même osée, quand même.
Oui,
hein,
parce que
entre
Duchamp,
la Pietà et l'urinoir.
Voilà. Duchamp, il s'agit d'un multiple, parce que justement, pour répondre à votre question, dans un premier temps, on ne s'est pas tellement aperçu finalement de l'aspect si révolutionnaire que ça du geste de Duchamp, puisque Arenberg, qui avait acquis cette fontaine, l'a égarée. Duchamp l'a rapportée lui-même, donc ça c'est l'original des originaux qui était donc à cette exposition des indépendants, on ne sait plus où il est passé. Et dans les années 60, Duchamp a dupliqué, a reproduit effectivement ce ready-made en plusieurs exemplaires. Donc là, M. Paquement nous comparait un multiple à une œuvre originale, et en plus il comparait une œuvre conceptuelle à une œuvre non conceptuelle. Et je crois que c'est ça la véritable révolution de Duchamp, c'est que tout d'un coup, le conceptuel va primer. Il y a toujours eu un aspect intellectuel dans l'art. Léonard de Vinci disait « la peinture est cosa mentale », mais elle n'était pas que ça. Et ce qui se produit avec Duchamp, c'est qu'il y a une cassure de l'articulation séculaire, presque millénaire, entre le fond et la forme. Dans une œuvre d'art, normalement, vous avez une inspiration qui peut effectivement être une idée, être une émotion, cette inspiration est incarnée dans une matière, qui ensuite va subir tout un travail formel. Et donc, on peut dire que le sens est un don de la forme. Duchamp va casser cette articulation séculaire. L'œuvre est avant tout conceptuelle, c'est l'idée qu'il a conçue à propos de l'objet, puisque cet objet, au départ, c'était un objet fonctionnel qui n'avait rien à voir avec l'art. Et donc, vous allez avoir le sens de l'œuvre qui se promène dans le ciel des idées, et puis dans les salles d'exposition, en quelque sorte, une trace, un indice de l'œuvre, mais qui n'est pas véritablement l'œuvre. C'est la raison pour laquelle Yves Klein avait cette belle phrase que j'aime beaucoup. Yves Klein disait « Mes œuvres sont les cendres de mon art ». C'est très joli comme formulation, mais en même temps, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire ce que vous voyez finalement dans les salles d'exposition, ça n'est pas l'important, ça n'est que les cendres. Mon art véritable, il est ailleurs, il trône dans le ciel des idées, des concepts.
Et c'est à nous de l'imaginer, bien souvent, ou d'en retrouver la trace.
De l'imaginer ou de le penser, parce que parfois, ce n'est pas un travail d'imagination, c'est un travail justement de conceptualisation ou de mentalisation, parfois assez compliqué, parce qu'effectivement, comme il y a cette cassure entre le fond et la forme, pour vraiment, entre guillemets, rentrer dans l'œuvre, il faut déjà avoir le concept, il faut déjà être initié, il faut déjà avoir le mode d'emploi. D'où d'ailleurs le malaise qui s'est instauré dans les centres d'art contemporain à propos de ce qu'on appelle le grand public, qui lui sent bien qu'il y a des éléments qui lui échappent. Et puis, de l'autre côté, le sentiment de supériorité des gens de l'art contemporain qui, eux, sont parfaitement à l'aise, effectivement, dans ce monde des concepts.
Donc, art d'initié, à la question qui décide de mettre cette estampille. Qui décide que serrer une main, c'est de l'art contemporain? Qui décide de ça?
C'est un réseau, effectivement. C'est un réseau. Et le paradoxe de Duchamp, c'est qu'en fait, il va jeter au fond cet art. C'est très paradoxal. Si vous réfléchissez, on va revenir à cette fontaine de Duchamp. Imaginez que cette fontaine, au lieu d'être présentée au Salon des indépendants de New York, elle soit tout d'un coup abandonnée sur un coin de rue. Bon. Eh bien, elle cesse d'être une œuvre d'art et elle redevient un débris ménager. Donc, paradoxalement, cette œuvre a besoin de ce qu'elle critique pour exister. Hein, puisque Duchamp disait avec cette œuvre...
Elle n'existe pas par elle-même.
Elle n'existe pas par elle-même et elle a besoin justement de ce qu'elle met en crise, de ce qu'elle remet en question pour exister. Elle a besoin effectivement d'une institution, d'une autorité qui valide le fait que c'est bien de l'art.
Alors c'est la fameuse phrase « lutte contre ce qui est ». On a besoin de lutter, donc de s'opposer.
Là, on a besoin effectivement d'exister en s'opposant, oui.
La transgression de l'art devient l'art de la transgression.
Oui.
C'est ce que ça veut dire, en somme?
Alors, pas tout de suite. Le moment Duchamp, si vous voulez, c'est le moment de la transgression de l'art, où effectivement, Duchamp fait sortir l'art de ses définitions traditionnelles, puisque là, il y a cette rupture entre le sens et la forme dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça n'est que bien des décennies plus tard que, effectivement, cette transgression de l'art va se muer en un art de la transgression. Et là, je crois que vraiment, aujourd'hui, si on visite justement le Palais de Tokyo ou certaines galeries de la FIAC, etc., sans arrêt, vous voyez cet art de la transgression. Bon, la FIAC, par exemple, vous aviez Wim Delvoye qui fait des tatouages sur des cochons empaillés. Et on avait, lors de la dernière FIAC, un très joli cœur de Jésus qui était tatoué sur un porc. Donc, vous voyez, l'idée de tatouer sur un porc qui, dans une autre religion, est vraiment l'objet honni par excellence, le symbole d'une autre religion. Donc, vous voyez toujours cette idée de « je mets en crise »,« je fais lutter », etc.
D'interrogation permanente, de provocation.
De provocation et d'interrogation permanente, mais ce qui devient gênant, c'est que, bon, on peut concevoir effectivement que la provocation soit nécessaire si elle a un contenu, si elle vise un bien. Mais là, ça devient un art en soi, ça devient un but en soi. C'est provoquer pour provoquer, c'est provoquer aussi pour occuper le terrain, pour faire parler de soi, pour donc attirer les médias, la renommée et donc aussi une cote financière. Ne soyons pas naïfs sur cet aspect également de l'art contemporain.
À tout de suite, Christine Churgens. Carrefour des Arts avec Christine Surgens sur les mirages de l'art contemporain aux éditions de La Table Ronde. Transgression, art contemporain, provocation. Mais comment d'ailleurs reste-t-on un art de la transgression quand on s'est institutionnalisé à ce point? Quand on est devenu la norme, il n'y a plus rien à transgresser?
Eh bien, ça, c'est un des miracles de l'art contemporain. Il arrive toujours, effectivement, à se survivre et à faire tourner, à décliner la transgression. Alors là, effectivement, il a un réel talent qu'il faut lui reconnaître. Et je crois que la transgression, il la décline suivant trois pôles. Le régressif, l'agressif, et puis qu'on pourrait qualifier de purement transgressif. Alors le régressif, c'est assez connu, et d'ailleurs ça remonte également à Duchamp, parce que c'est un urine noir, donc les fonctions excrémentielles sont incluses dans cet objet. Et beaucoup d'œuvres d'art contemporain fonctionnent en relation avec la scatologie. Alors, il y en a qui sont très connus, comme par exemple les fameuses boîtes de Manzoni, les boîtes de conserve qui contiennent des excréments d'artistes et qui valent plus cher que leur poids en or. Mais il n'y a pas eu que Manzoni. Vous avez une véritable école scatologique, on pourrait dire, qui va du plus artisanal au plus sophistiqué, avec par exemple Wim Delvoye, qui a, avec des ingénieurs, fabriqué une machine très complexe, qui est une sorte d'estomac artificiel qui digère absolument tout ce qu'on lui met dans le corps. Et évidemment, bon, je vous laisse imaginer le produit terminal. Alors, je crois que cet aspect qui est récurrent, qui revient sans cesse, il ne faudrait pas se méprendre. Il ne faudrait pas simplement dire, bon, c'est des plaisanteries de potache, c'est du simple mauvais goût. Ça va beaucoup plus loin que ça. Quand on vous fait un numéro spécial pour dire qu'est-ce que l'art contemporain et qu'on vous met une cuvette des toilettes, non seulement on fait un clin d'œil à Duchamp, bien sûr, mais je crois qu'on souligne cet aspect de cet art ou de ce mouvement qui était capable de tout avaler et de tout digérer. Et en plus, on souligne son pouvoir d'exécration. Donc, ce n'est pas du tout gratuit de leur part. C'est justement une métaphore très profonde de ce qu'il est foncièrement.
Toutes les valeurs sont vidangées.
Tout à fait. C'est à mon avis une bonne définition de Jean Clerc qui parlait de vidange générale des valeurs. Alors, il y a d'autres aspects donc, de cette transgression tous azimuts qui est l'agression. Alors là, il y a des agressions qui sont assez signifiantes, comme celle de Santiago Tierra, qui a pris de pauvres gens, de pauvres travailleurs, qui les a payés une misère pour leur faire creuser des trous en plein soleil. Donc, et puis alors ça se termine, on prend la photo et on a comme ça une sorte de cimetière inutile où on voit des espèces de petites tombes qui sont creusées en plein soleil. Mais ce qui est intéressant, c'est de lire le catalogue de l'exposition, qui était hardcore au Palais de Tokyo, où on vous explique au fond que Santiago Serra d'abord fait ça pour la bonne cause, parce qu'il exploite ceux qui sont exploités pour dénoncer l'exploitation. Ça, c'est, puisque nous parlons des valeurs, sciences morales et politiques, l'art contemporain aime beaucoup dénoncer le mal par le mal. Ça, c'est quelque chose qu'il pratique très régulièrement. Et puis surtout, Santiago Serra va dire, je cite le catalogue, « L'homme reste un ready-made ». Donc vous voyez comment la plaisanterie de Duchamp, qui était aussi une sorte d'objet intellectuel, de petits jeux intellectuels, etc., quelques décennies plus tard, se transforme en une sorte d'attaque en règle contre l'homme et contre l'humanisme.
Il y a une réduction de l'homme à la chose.
Tout à fait.
L'homme devient une marchandise,
tout
en quelque
fait.
Sorte. C'est
tout
un slogan que l'on peut écouter par ailleurs, mais qui trouve peut-être une incarnation particulièrement stupéfiante.
Oui, et dans l'art contemporain, il est clair que si j'avais à définir l'homme d'après l'art contemporain, je dirais que pour l'art contemporain, l'homme, ce sont des pulsions et un code génétique enfermés dans un sac de protéines. Voilà, c'est la définition de l'homme. Donc à partir de cela, effectivement, vous pouvez faire beaucoup de choses. C'était un matériau, au fond, de travail, comme le bois, la pierre. Ou...
Ça rejoint le scientisme et le cynisme le plus absolu.
Le cynisme, oui. Ça, il revendique d'ailleurs que ce cynisme est tout à fait exalté, loué.
Ce qui est paradoxal, avant d'aborder le troisième point, c'est que, après le régressif et l'agressif, donc le transgressif, c'est que ça se présente comme un art de la liberté, de l'épanouissement, du tout faire.
Oui.
Du tout est possible.
Oui.
Alors que précisément, vous dénoncez une réduction.
Oui, parce qu'au fond, toutes les transgressions sont possibles, mais il n'y a que les transgressions possibles dans cet art-là. Si vous voulez faire un art d'harmonie, si vous voulez continuer à croire dans une valeur qui serait la beauté, par exemple, alors là, vous êtes vraiment traité de ringard, de passéiste, voire de réactionnaire extrêmement dangereux.
Le seul mot de beau vous classe déjà ?
Ah oui, ou alors à moins, effectivement, d'aborder la beauté comme un concept Et à ce moment-là, vous allez avoir des illustrations de la beauté dans l'art contemporain qui vont être assez décoiffantes. Il y avait eu, en l'an 2000, justement, en Avignon, une exposition sur le thème de la beauté. Et on avait un bac d'asticots dans une église. C'était une illustration de la beauté. C'est-à-dire que, comme au fond, ce qui va compter dans cet art de la provocation, dans cet art du choc, c'est de justement produire une espèce de choc émotionnel, alors à ce moment-là, les choses les plus horribles, l'horreur est belle.
Régressif, agressif, transgressif.
Alors transgressif, alors là c'est la transgression pour la transgression, tout y passe. Moi peut-être l'exemple qui m'a le plus sidéré, c'est le camp de concentration en Lego. Là je dois dire que j'ai eu du mal à en revenir. J'ai vu ça au musée du jeu de paume. L'art contemporain est un art contextuel, ça il aime à le dire. Or, le jeu de paume, c'était le lieu où les Allemands stockaient les œuvres d'art volées aux personnes qu'ils déportaient lors de la dernière guerre. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un camp de concentration Lego. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un jeu d'enfant. Enfin bon. Et alors, cette œuvre a eu une destinée tout à fait étrange. Alors, non seulement ça n'a provoqué aucun attroupement, aucune protestation, l'art contemporain est un transgresseur officiel et reconnu en quelque
sorte.
Alors
que ça aurait pu émouvoir des personnes vécu les tragédies de cette période.
Cette œuvre a voyagé, est allée à New York au musée d'art juif qui organisait une exposition sur ce thème justement. Alors là, il y a eu effectivement des protestations de déportés, etc. Et le résultat de ces protestations, c'est que le directeur du musée a acheté l'œuvre. Et là, je dois dire qu'après cet épisode, j'ai cessé de croire que l'art contemporain s'écroulerait après la provocation de trop. Parce que pendant très longtemps, je me disais à force vraiment d'aller de plus en plus loin, un jour, ça ira trop loin. Mais là, je crois qu'il faut renoncer à cette perspective, d'autant que j'en ai parlé dans le livre sans oser trop approfondir la question, parce que c'est tellement énorme que si vous ne montrez pas de photos, je crois que les gens décrochent. Mais vous avez par exemple les Chinois qui, lorsqu'ils se mettent à l'art contemporain, sont absolument redoutables. Il y a un groupe en Chine qui s'intitule le groupe Cadavre. Déjà, ça donne une idée. Et alors eux, une de leurs œuvres, c'est de manger des fœtus humains.
Donc, carrément.
Ah, carrément. Et vous avez un numéro spécial d'Art Presse qui s'appelle « Représenter l'horreur » qui a montré la photo et produit également tout un article pour expliquer en quoi c'est de l'art contemporain. Et ce qui est sidérant, au bout d'un moment, vous dites le texte est plus sidérant que la photo parce que vous avez ce ton, c'est le ton un peu scientifique, distancié, qu'on emploie pour analyser de manière très neutre des faits tout à fait objectifs. Enfin,
bon, donc le ton est d'autant plus choquant qu'il est en décalage radical
voilà,
avec
voilà,
ce que ça
exprime. Voilà. Mais effectivement, si vous vous indignez, on considère que vous n'avez pas effectivement vous n'êtes pas bien éduqué. Parce qu'aujourd'hui, au fond, qu'est-ce que c'est qu'être cultivé dans cette culture au cœur de laquelle se trouve l'art dit contemporain? Être cultivé, c'est apprécier la transgression. Donc si vous n'appréciez pas la transgression, si vous vous énervez, si vous vous indignez, c'est que vous n'êtes pas bien éduqué.
Donc on a besoin de vous rééduquer.
Voilà, exactement.
Et les Chinois pourraient en dire pas mal là-dessus.
Oui, et puis c'est pour ça on vous met des médiateurs dans certains centres d'exposition, justement, pour vous faire mieux entrer dans cet art. Mais c'est aussi une manière, effectivement, de vous domestiquer. Voilà.
Christine Surgens, ça veut dire quand même aussi que l'art contemporain, d'une part, franchit aisément les frontières.
Complètement, oui.
Donc les barrières nationales et les barrières culturelles ne sont pas hermétique de ce point de vue, il n'y a pas d'anticorps sécrété naturellement contre l'art contemporain, il arrive quand même à plaire. Ce que vous nous décrivez, qui peuvent passer pour des choses absolument épouvantables comme manger des fœtus, mine de rien, si ça existe, c'est qu'il y a une demande.
Alors, arriver à plaire, il arrive à se vendre, ça c'est certain, pour plusieurs raisons. D'une part, donc cet art contemporain qui n'est pas l'art moderne, je crois que nos auditeurs...
La distinction s'impose voilà, peut-être, là, vous allez la faire tout de suite d'ailleurs.
Voilà, s'en sont certainement aperçus. L'art moderne, c'est quelque chose qui, historiquement, est complètement différent, même s'il peut toujours y avoir, entre le moderne et le contemporain, des petits passages et des petits frottements. L'art moderne, historiquement, on le fait naître avec le mouvement impressionniste. Et l'art moderne va résulter d'une sorte de volonté de déconstruire l'art pour trouver l'essence de l'art. Donc, après les impressionnistes, vous aurez par exemple les Fauves qui vont dire... Qu'est-ce que c'est que l'essence de la peinture? Eh bien, c'est la couleur, et tout va se jouer sur la couleur. Donc il s'agit d'une déconstruction qui est toujours suivie ensuite d'une concentration sur ce que l'on considère comme étant l'élément dynamique des procédés artistiques. Donc, ce n'est pas quelque chose de destructeur du tout, l'art moderne.
C'est une introspection aux sources de l'art.
Oui, on essaie de retrouver vraiment les sources et ce qui fait la spécificité de l'art. Et je crois qu'on comprend pas, on comprend rien à l'art moderne si on n'a pas en mémoire l'importance de la photographie ou du cinéma, qui sont effectivement des techniques qui se montrent des concurrentes des artistes. Et c'est vrai qu'on peut lire l'art moderne comme étant une sorte d'invention successive, de marche triomphale vers l'abstraction, puisque l'abstraction a été la grande invention de l'art moderne. C'est vrai qu'on peut avoir cette lecture, mais on peut aussi dire que c'est une fuite en avant, c'est une sorte de sauve-qui-peut, pour essayer de trouver la mutation artistique qui fera la différence justement avec la photo, avec le cinéma, et qui permettra de sauver les artistes, de sauver l'art.
Et c'est une sorte de contre-coup à l'émergence de nouvelles techniques qui changent les rapports entre les hommes et à l'art.
Et c'est pour ça que l'art qui est le plus novateur au début du XXe siècle, comme par hasard, c'est la peinture. Parce que c'est celui qui est le plus directement visé par la photo, par le cinéma. Et c'est vrai que cette effervescence est telle que pratiquement avant la Première Guerre mondiale, tout a pratiquement déjà été inventé, même si tout n'a pas encore fructifié. Mais disons que tous les ferments de l'art moderne sont déjà là. Il ne faut surtout pas confondre le moderne et le contemporain.
Donc la mise au point est faite. Alors qu'est-ce qui plaît avec cet art contemporain, la demande?
Donc, d'une part, il faut voir cet art moderne qui a fructifié jusqu'à la fin des années 50. Et là, il faut peut-être porter au crédit de Duchamp d'avoir pressenti que si l'art moderne est une déconstruction, ça finit toujours par s'arrêter. Quand vous déconstruisez une machine et que vous arrivez au boulon, vous ne pouvez pas aller plus loin. Et donc Duchamp, qui était un homme fort intelligent, a peut-être justement essayé de trouver autre chose avec ses ready-made pour au moins sauver le statut d'artiste. Bon, mais ce faisant, je ne pense pas qu'il a peut-être essayé de transcender l'art, mais en fait, il l'a annulé en pensant éventuellement le transcender.
Il y a une réaction syndicale au début, quasiment corporatiste.
Au début, effectivement, on voit bien que Duchamp a apporté quelque chose de nouveau. Ça n'est pas forcément repris. L'art moderne a encore beaucoup de choses à dire, à faire. Et donc, le geste de Duchamp est en quelque sorte à la périphérie de l'art moderne. C'est une sorte, avec ses ready-made, il a un petit peu balisé jusqu'où on peut aller. Ce sont en quelque sorte des points de non-retour. Alors il y a bien Dada, il y a une partie du surréalisme qui est un mouvement plus complexe mais qui effectivement va reprendre certaines idées du Champienne. Et puis bonhomme allant, on arrive comme ça à la fin des années 50 où là il y a la grande explosion de l'abstraction lyrique qui est en quelque sorte le bouquet final de ce feu d'artifice de l'art moderne. Et après c'est terminé, l'art moderne a achevé sa déconstruction, il ne peut plus produire de renouvellement formel spectaculaire. J'insiste sur spectaculaire, je pense qu'il peut toujours y avoir un renouvellement des formes et des styles. Mais c'est vrai que sur un plan vraiment spectaculaire, là, on a à peu près essayé tout ce qu'on pouvait essayer. Or, on arrive à la fin des années 50, au moment où la société de consommation explose, où les médias également sont de plus en plus importants. Donc, dans le marché de l'art, on veut du spectaculaire. Et là, justement, pour avoir du spectaculaire, pour avoir de la provoque, on va rechercher Duchamp et ses héritiers.
Donc c'est comme ça que ça s'est fait en fait,
c'est
l'épuisement d'une tendance qui en a amené une autre qui n'était pas forcément prévisible, enfin dont le destin n'était pas forcément écrit, ça veut dire.
Non, alors l'épuisement d'une tendance, il faut préciser que l'art moderne, l'art moderne historique, on peut dire effectivement à la fin des années 50, en quelque sorte, s'est joué. Mais il y a une seconde vie de l'art moderne qui s'est produite, mais dans le silence des ateliers. C'est ce qu'Aude de Kéros appelle l'art caché. Alors ça, c'est un courant qui existe, mais qui est très mal répertorié, très mal étudié, parce que justement, ce courant-là a de moins en moins été sous le feu des projecteurs. Puisque justement, ce qui va monter de plus en plus, c'est ce fameux art qui va devenir contemporain. Alors, il va devenir contemporain au milieu des années 70, c'est là où le terme, vraiment, art contemporain va s'imposer. Avant, on disait plutôt avant-garde, mais avant-garde, ça avait un côté un peu militaire, militant. Et à partir du moment où le marché va s'emparer effectivement de cet art, art contemporain, ça fait plus neutre, ça fait plus marchand. Et là, il faudrait aussi peut-être évoquer une autre date avant ce milieu des années 70, c'est 64. En 64, Danto, qui est un philosophe américain, voit les fameux barils Brio de Varol. Alors, il est assez étonné que ces barils de lessive empilés les uns sur les autres soient considérés comme de l'art. Il rentre chez lui, il se met à réfléchir et tout d'un coup, il a la solution. Danto va dire: qu'est-ce que l'art? C'est ce que le milieu artistique décrète être de l'art. C'est-à-dire que là, c'est l'étape après Duchamp. C'est Duchamp poser la question, et puis bon, il n'y répondait pas. Bon, là, étape supplémentaire, on y répond. Effectivement, à partir du moment où vous dites qu'est-ce que c'est que l'art, c'est ce que le milieu de l'art décide d'être de l'art, quand vous êtes un pays qui est puissant, qui a les moyens, etc., bah c'est sûr qu'à ce moment-là, l'Amérique va avoir les moyens d'être à la tête de l'art contemporain. Et comme par hasard, en 1964, Rauschenberg gagne la Biennale de Venise. Et traditionnellement, c'est le moment où l'art, la capitale de l'art, passe de Paris à New York.
Christine Surgens, Les Mirages de l'art contemporain aux éditions de la Table Ronde. À tout de suite.
L'Académie française.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres.
L'Académie des sciences.
L'Académie des beaux-arts.
L'Académie des sciences morales et politiques.
Pour vous,
une seule radio.
Sur Internet,
Canal Académie.
Carrefour des arts avec Christine Surgens, Les Mirages de l'art contemporain, édition de la Table Ronde. Christine Surgens, historienne d'art, qui nous emmène dans ces méandres de l'art contemporain, méandres à la fois idéologiques, bien sûr artistiques, puisqu'on est allé puiser aux sources avec Duchamp, et une date que vous venez de nous mentionner, 1964, où vous nous avez dit à l'instant que justement c'était le milieu artistique qui était lui-même sa propre référence, et que le marché, dans les années 60-70 plutôt, rencontrait justement cette création artistique, avec cette fusion que l'on connaît aujourd'hui et qui donne le mercantilisme le plus absolu.
Oui, je pense que là, tout le monde a entendu parler de la petite guerre que se livrent M. Pinault et M. Arnault, pas seulement sur un plan économique, mais également sur le plan des collections d'art contemporain. Et ça, c'est assez typique, justement. M. Arnault, il y a 20 ans, collectionnait Monet. Or, aujourd'hui, il collectionne l'art contemporain. Bon, déjà, pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, cet art moderne, historique, tant plus fabriqué, effectivement, bon, une fois que les musées l'ont acheté, que les grands collectionneurs les ont dans leur collection, eh bien, il y a un amoindrissement des œuvres disponibles sur le marché, donc on va se rabattre sur des créations beaucoup plus récentes. Mais il n'y a pas simplement ce jeu de bascule, je crois que cet art contemporain remplit un certain nombre de fonctions qui intéressent justement ce que j'appellerais le mercantilisme effréné. On a commencé de voir tout à l'heure que c'était un art, vous avez dit, vidange général des valeurs. Alors évidemment, si vous vidangez les valeurs, c'est intéressant pour le système mercantile, parce qu'au fond, broyer les identités, c'est broyer tout ce qui freine la vente. Donc c'est intéressant.
Ça fait place nette.
Ça fait place nette, oui.
Plus de frontières, plus de références.
Oui.
En fait, c'est l'art de la mondialisation absolue.
Ah oui, c'est l'art de la mondialisation absolue. Ça sert également, je dirais, de club de rencontre pour gens de pouvoir. C'est un club de rencontre, si vous voulez, c'est moins fatigant que le tennis. Et c'est moins marquant que d'appartenir à une loge ou à je ne sais quelle association qui serait un peu trop connotée. Ça paraît plus neutre. Donc vous êtes simplement invité à un vernissage, et puis avec l'after, bien sûr, qui est après le vernissage, qui est beaucoup plus important que le vernissage. Et là, on se rencontre entre soi et on peut également traiter de ses petites et de ses grandes affaires. Et puis alors, il y a tout un aspect mécénat. On a un petit peu de peine à appeler ça mécénat, mais enfin bon, c'est sûr que si vous prenez un artiste qui, je sais pas, travaille avec deux clous et une ficelle et que vous arrivez à obtenir des cotes extraordinaires, eh bien, vous montrez que vous avez un talent dans le marketing fabuleux. Donc, puisque vous êtes capable, en quelque sorte, de vendre des palmes à un canard. Donc, c'est bon, une grande partie de ce mécénat, entre guillemets, d'art contemporain repose là-dessus, avec, à mon avis, des retours de bâton qui sont toujours possibles, parce que quand vous avez une grande marque de champagne qui s'amuse à sponsoriser des œuvres scatologiques, je ne suis pas sûre que pour son image de marque, à terme, ce soit vraiment tout à fait fructueux. Mais c'est vrai que lorsqu'on fait des calculs à court terme, comme cet art souvent est un art provocateur qui fait scandale et qui donc va vous rapporter des articles dans les journaux, on peut dire, bah oui, j'ai gagné. J'ai eu effectivement du bruit et on a parlé de moi dans les journaux.
Quelles sont les stars que l'on s'arrache aujourd'hui dans l'art contemporain ?
Ah, vous avez, il y en a beaucoup, mais vous avez, il y en a beaucoup, puis on en use beaucoup aussi, hein, parce que bon, il faut toujours justement avoir cette apparence du nouveau. Alors, par exemple, Catalan, qui est célèbre pour son fameux pape écrasé par une météorite, où certains se sont plus à voir.
Donc, le pape écrasé par la météorite, c'est la sanction du ciel.
Bah oui, puisque la météorite, effectivement, c'est un cadeau du ciel, donc c'est en quelque sorte une sorte de condamnation du pouvoir papal. Alors évidemment, si on se dit...
Ce qui est assez conformiste.
Oui, c'est assez conformiste, mais ce qui est amusant, c'est de voir effectivement certaines personnes dire « Ah, mais c'est peut-être une image de l'Église, de la présence au monde, etc. » Bon, effectivement, si vous pensez que le rocher n'est pas une météorite, mais est un simple rocher, vous pouvez voir le pouvoir spirituel qui peine sous le pouvoir de la matière, de la temporalité. Bon.
Mais cette interprétation est toujours possible, puisque comme c'est contextuel, enfin que c'est livré à notre interprétation, on peut...
Oui, mais je veux dire, parce que l'art contemporain étant contextuel, c'est aussi contextuel par rapport à d'autres œuvres du même Catalan. Or, Catalan est célèbre, allez voir la collection Pinault à Venise, vous verrez le petit Hitler priant. Hitler, que je sache, n'était pas un croyant d'une ferveur folle, donc le mettre effectivement dans ce geste de prière qui est très connu et qui est très connoté, quand vous rapprochez le pape et sa météorite et le petit Hitler priant, là vous avez quand même une forme d'attaque qui se dessine.
Bon. Ça n'a jamais fait jaser Hitler priant?
Non,
comme le camp de concentration
voilà, tout à fait. Non, c'est et de toute façon, le nazisme est un thème assez récurrent. Il y a Urlansky, il y a plein d'artistes qui travaillent sur ce thème.
Pourtant, les nazis avaient fustigé l'art dégénéré. Est-ce que l'art contemporain aurait été inclus dans l'art dégénéré pour les nazis?
Je crois qu'on est dans un tout autre contexte que ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'art contemporain se sert de ce qui s'est passé en Allemagne et de ce qu'a fait Hitler pour, dès que on l'attaque, dire vous avez une attitude qui est digne de celle d'Hitler. Vous êtes tout de suite renvoyé dans le camp des nazis, des pires fascistes et des pires...
Alors que lui-même utilise les grosses ficelles, comme vous nous le dites.
Oui, et puis il y a effectivement ce goût de l'horreur, ce goût de la mort, ce goût du brin. Hein, on en parlait tout à l'heure, qu'a très bien analysé Jean-Claire dans un tout petit livre qui s'appelle « De Immundo », de l'immonde, où là, effectivement, on peut se demander s'il n'y a pas la continuation par d'autres méthodes de, effectivement, un programme de dévastation de l'homme qui a été bien engagé dans les années 40.
Alors, on va parler du nihilisme destructeur dans quelques instants, qui est l'armature de cet art contemporain. Mais parmi alors, les stars qui existent aujourd'hui, vous nous avez parlé donc, du pape écrasé par une météorite, il y a d'autres exemples extrêmement troublants.
Il y a des exemples très divers. Par exemple, Sophie Calle, qui a bâti toute son œuvre sur une sorte d'autofiction. Elle se raconte elle-même. Donc, c'est en quelque sorte, elle regarde son nombril et c'est l'œuvre. Alors, actuellement, vous pouvez participer à une œuvre de Sophie Calle sur le pont du Garigliano. Là, ça fait partie des œuvres qui ont été installées avec le tram. Elle a fait construire une cabine de téléphone et elle va téléphoner. Elle habite New York, mais elle va passer un coup de fil 3 fois par semaine, mais on ne sait pas quand. C'est aléatoire. Pour justement se raconter au passant qui, par bonheur, sera là et se dira « Tiens, ça sonne, qui sait ? Allô, Sophie ?» etc. La cabine a quand même coûté 300 000 euros.
Donc oui, ce qui est prodigieux, c'est que l'objet usuel prend une valeur absolument fantastique.
Complètement. Et puis, alors, ce qui est très curieux, c'est de voir cet art qui donc est soutenu par les grands capitaines d'industrie, hein, on a vu Pinault, Arnault, etc., développer un discours sur « je suis un art citoyen, je me mets au service du peuple, je recrée de la convivialité là où il n'y en a pas, parce que je lève les tabous, parce que enfin, je donne la parole à ce qui est refoulé dans la société ». Alors vous avez eu par exemple, je ne sais plus quel frac avait soutenu ça, une opération qui s'appelait « Chien de feu » et qui consistait à allumer des braseros en quelque sorte pour symboliser l'anniversaire des émeutes de banlieue, vous voyez, c'est bon, et dans un lieu où effectivement il y avait autour des jeunes, on va dire.
Oui, ça peut être diversement apprécié.
Voilà, bon, donc vous avez cet art qui n'hésite pas à jouer avec le feu, ça on peut vraiment le dire, et on se demande à chaque fois, mais les gens qui organisent ça, est-ce qu'ils le font exprès? Est-ce que ce sont des inconscients parce qu'ils jouent avec les mots et ils restent sur la comète, en quelque sorte, en ne voyant pas que ça peut avoir des conséquences tout à fait concrètes sur un certain type de population?
Vous nous avez dit tout à l'heure cette fascination pour la mort, le brin et les relents totalitaires qui peuvent s'en dégager. Le procès des chaises, par exemple, ça fait penser à quand même quelque chose d'un peu inquiétant. Ça renvoie...
Alors le procès des gestes est assez exemplaire de justement ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire l'art à l'école. Il y a eu un grand plan Tascalangue, l'art à l'école. Et en fait, l'art à l'école, tout le monde a applaudi en disant « chouette, l'art à l'école ». Mais en fait, il ne s'agit absolument pas d'envoyer Titien, Delacroix, Manet ou même Picasso. Picasso encore tout juste, mais l'art à l'école, ce sont les 10 ou 15 dernières années de l'art contemporain. Et donc, une des actions qui avait été entreprise dans ce cadre, c'était de demander à des lycéens de ramasser toutes les vieilles chaises du lycée et de les casser, de les détruire, cela étant filmé et donc constituant l'œuvre. Ce qui est une manière de dire « détruire, c'est créer ». Il y a une exposition.
Il y a un côté Khmer Rouge hein, dans cette action-là.
Oui, parce que à chaque fois, la légitimation de ce genre d'action, c'est la catharsis. Alors ça, c'est que la catharsis, Aristote en a parlé. Alors Aristote, c'est un grand philosophe de l'Antiquité, donc tout de suite, on a une sorte d'aura qui vous protège. Oui, mais bon, la catharsis pour Aristote, c'est la purgation des passions. C'est pas le défoulement brouillon, déjà, pour commencer. Et puis Aristote en parlait dans le cadre de la tragédie, donc du théâtre, avec le mot. Enfin, et au théâtre, quand vous donnez un coup de couteau à un acteur, vous ne le tuez pas. C'est bon. Là, les chaises, elles sont réellement brisées. Comme toujours dans l'art contemporain, il y a à chaque fois des effets de seuil. Et puis, surtout, moi je veux bien qu'il y ait des effets de catharsis, c'est indéniable, mais il y a aussi le mimétisme. Or ça, on n'en parle jamais. Jamais, jamais, jamais.
Le procès des chaises ou le procès des lunettes un jour, ou le procès des chaussures.
Ah, mais on a eu plein d'autres, hein. Je parle des chaises, mais il y a aussi un piano. Il y a eu un piano qui a été brisé comme ça, dans une cour d'école de je ne sais plus quelle école des Beaux-Arts. Et comme justement ça manquait un petit peu de public, parce que les gens s'étaient pas arrivés en masse pour aller voir ce piano brisé, on a fait descendre les écoles, les enfants des écoles pour assister à la démolition du piano. Ce qui est terrible, c'est que ça reprend, par exemple, Armand faisait des colères d'Armand, où effectivement il brisait un piano et ensuite il collait la brisure du piano. Suivant, on pouvait dire que c'est encore un peu composé, etc. Mais je veux dire, cette idée de casser un objet, c'est finalement très ancien et ça perdure sans arrêt, avec à chaque fois l'attrait ou l'aura d'une sorte de nouveauté. C'est comme si c'était nouveau alors que finalement ça, c'est un académisme.
Alors avant d'évoquer justement cette dimension de cet art contemporain qui pénètre dans les écoles, souvent à l'insu des parents.
Oui. Oui, et je connais beaucoup de parents qui se sont rendus compte de l'existence de l'art contemporain le jour où les enfants sont revenus en racontant des choses un peu bizarres sur ce qu'ils avaient vu dans la journée.
Sans que cela se fasse d'une quelconque manière, en concertation avec le
monde. Non, parce que comme personne n'a véritablement vu le glissement qu'il y a entre l'art dit contemporain et l'art... Alors là, on est un peu piégé par les mots, mais j'allais dire l'art au sens premier du terme, l'art non du champion, non conceptuel, bon... Bah finalement, personne ne pense qu'il puisse y avoir un quelconque problème. Ça changera peut-être, parce qu'effectivement, à force d'envoyer les enfants et les jeunes voir essentiellement et beaucoup ce type d'action, peut-être qu'effectivement, on va reformater les mentalités. Mais comme jusqu'ici, il n'y avait pas beaucoup de monde dans les centres d'art contemporains, et que ces centres d'art sont financés par l'État, subventionnés, etc., bah on avait trouvé une petite astuce très facile, c'est d'envoyer les écoles. C'est la sortie traditionnelle des écoles. Et parfois, on a de certains chiffres où on a 60% du public de tel centre d'art contemporain qui est constitué par le public des écoles. D'où des problèmes comme ce qui s'est passé à Bordeaux, où effectivement on avait un sujet difficile où on mélangeait art contemporain, pornographie, pédophilie, etc. et le thème de l'enfance. Et on envoyait régulièrement, comme d'habitude, les enfants des écoles voir ce type d'exposition.
Christine Surgens, Carrefour des Arts, sur les mirages de l'art contemporain aux éditions de La Table Ronde. Carrefour des Arts et une dernière partie toujours consacrée aux mirages de l'art contemporain avec Christine Surgens, historienne d'art. Les mirages de l'art contemporain aux éditions de La Table Ronde. Il existe bien peu d'études sur cette dimension de l'art contemporain et sur cette, justement sur ce rapport que nous devons avoir et puis toutes les choses qu'il faut connaître parce que Avant tout, est-ce que l'on connaît, et vous nous avez parlé des écoles et de l'intrusion de l'art contemporain dans les écoles, est-ce que l'on connaît vraiment ce qui est enseigné à nos enfants? Il y a une forme un peu de rééducation, ou du moins d'éducation à ce qui peut constituer, en tout cas au fil de votre discussion, on a pu s'en apercevoir quand même, une promotion de la laideur quand même, ou de la déstructuration mentale.
Oui,
parce que je vais un peu loin là.
Effectivement, on n'enseigne plus les codes par leur mise en œuvre, mais par leur déconstruction. Enfin, on espère qu'on va enseigner les codes par leur déconstruction. Ce qui, à mon avis, est quelque chose d'assez illusoire, parce qu'au fond, apprendre la transgression aux enfants, qu'est-ce que ça veut dire ? Transgresser, pourquoi pas ? Effectivement, si on n'avait pas transgressé le feu dans les cavernes, on serait peut-être toujours dans les cavernes. Bon. Mais pour transgresser une règle, il faut déjà connaître la règle. Or, les enfants, eux, en sont à apprendre la règle. Vous ne pouvez pas à la fois leur faire apprendre la règle et leur faire apprendre la transgression de la règle. Il y a quelque chose dans le cerveau
qui... C'est là que ça va très loin.
Voilà. C'est là où, à mon avis, il y a un énorme problème quand on confronte ces enfants à cet art contemporain et que, corrélativement, effectivement, on ne leur enseigne plus un certain nombre de techniques, comme le dessin, qui est aujourd'hui quelque chose d'absolument, mais alors ringard au possible pour tout ce personnel de l'art contemporain. Or, l'apprentissage du dessin repose sur le fait qu'on a une main, on a un œil, enfin, il y a des données physiques et anthropologiques qui ne bougent pas et qui sont d'autant plus, à mon avis, intéressantes à mettre en œuvre aujourd'hui qu'on est de plus en plus dans un monde d'informatique virtuelle où les choses se dématérialisent. Donc c'est important de redonner à l'humain l'usage justement de ses yeux, de ses facultés physiques et psychologiques aussi et créatives.
Alors justement, vous nous avez parlé d'un piano, ce piano qui était cassé. Dans le mot artisan, il y a le mot art, avec tout ce que cela suppose comme apprentissage difficile, patient, la persévérance que cela suppose. Pour l'apprentissage de la technique et arriver à créer quelque chose, l'art contemporain, c'est l'inversion complète, c'est le mépris de la technique. Alors.
Complètement. Complètement. On l'a bien fait avec Duchamp, on est passé d'un savoir-faire à un faire-savoir. C'est ça qui compte.
Belle formule.
Le fait de casser le piano est effectivement tout à fait emblématique d'une école qui ne veut plus transmettre des techniques. Là, je suis en train d'écrire un article sur un professeur de dessin qui a été persécuté par son inspectrice parce qu'il faisait dessiner ses élèves.
Simplement.
Voilà, il a été, il a failli le payer très cher. Il a été cassé au point de vue des échelles. Et encore aujourd'hui, il est parti en retraite, à un niveau de retraite bien inférieur à ce qu'il aurait dû normalement prétendre s'il n'avait pas rencontré cette inspectrice qui a été vraiment au bord de la crise de nerfs en le voyant faire dessiner ses élèves.
Et ça veut dire que les bons vieux cours d'éducation manuelle et technique, les fameux cours de MT...
Ah, c'est presque considéré comme antisocial, si vous voulez, parce que vous êtes le professeur qui sait et qui impose, enfin, qui exploite les élèves en leur imposant un savoir.
On vit, Christine Surgens, de plus en plus dans une société de réseaux, de moins en moins pyramidale, où les institutions, on peut le voir même à l'échelle politique, sont non pas forcément discréditées, mais ont perdu quand même beaucoup de leur grandeur et de leur influence. L'art contemporain vit comme un poisson dans l'eau dans ce nouveau monde de réseaux, d'Internet.
Oui, le rhizome.
Tout est fluctuant, sans repère.
Tout à fait. Le rhizome est une figure qu'on trouve souvent dans ce monde, tout en sachant assez opportunément se raccorder effectivement au réseau mère qui est celui de l'État ou d'un grand mécène qui va effectivement donner les subsides nécessaires.
Oui, pour l'argent, oui.
Voilà. Mais c'est vrai que là aussi, il y a effectivement un problème de milieu. C'est vrai que les artistes, moi j'ai tendance à appeler de l'œil et de la main, faute de mieux, mais les peintres de chevalet, les sculpteurs sur socle sont des gens qui n'ont pas cette culture du réseau, qui sont beaucoup plus repliés sur eux-mêmes, peut-être plus individualistes, et qu'effectivement, c'est un handicap quand en face, vous avez ces réseaux qui sont à la fois très souples, très mouvants, et qui sont capables de s'adapter.
Et donc, ils se retrouvent marginalisés. Il n'y a pas de contre-offensive artistique ?
C'est très difficile. Si, il y a des gens qui travaillent, mais le problème, moi je connais des galeries qui essaient de défendre une peinture avec des gens qui ont un métier. Mais les directeurs de galeries me disent on a du mal à avoir des articles dans les revues qui comptent. C'est ça le problème, c'est que la presse, les médias se sont rangés toujours de ce côté-là de manière préférentielle. Et on comprend pourquoi d'ailleurs, parce qu'effectivement, une exposition qui crée scandale, eh bien effectivement, ça peut faire la une d'un journal, ça fait vendre, alors que une peinture, si vous êtes un peintre et que vous faites une peinture très méditative, très contemplative, ça ne fait pas le bruit qu'on est en droit d'attendre dans cette société qui est la nôtre.
Finalement, on souffre de la société du bruit, du vacarme.
Oui.
Alors que l'art n'est pas fait pour cela.
Oui. Tout à fait. Et là, il faudrait inventer autre chose. Mais là, on est au début, effectivement, d'une contre-offensive. Mais je crois qu'on ne fera pas l'économie de l'analyse de l'art contemporain, c'est-à-dire de vraiment comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne. Ça, je crois que c'est quelque chose de... On ne pourra pas l'éviter. Parce que pendant très longtemps, beaucoup de gens se sont enfermés justement sur leur atelier en disant soit c'est tellement bête que ça va finir par tomber tout seul, ou bien ce sont des gens qui attendent la victoire de la défaite de l'adversaire. Bon, mais ça, je crois que c'est une attitude qui n'est plus jouable.
Et ce défaut d'analyse nous a empêchés de voir justement les fondements de cette idéologie, une idéologie postmoderne fondée sur le nihilisme et qui est beaucoup plus prégnante qu'on peut l'imaginer.
Je crois qu'on peut dire qu'effectivement c'est un nihilisme. D'ailleurs, la définition du contemporain qui dit que c'est ce qui lutte contre ce qui est, quand vous l'analysez bien,
c'est revendiqué.
C'est revendiqué, c'est tout à fait un nihilisme. Mais c'est vrai que ce qui nous a empêchés de voir effectivement c'est la nature de l'art contemporain, c'est que c'est quand même quelque chose de très paradoxal, parce qu'il est à la fois une chose et son contraire. Il est à la fois institutionnel et révolutionnaire. Il peut être très pulsionnel et en même temps très intello. Il peut être très trash, comme disent les jeunes aujourd'hui, et en même temps très rigolo. Enfin bon, il y a toujours cette... Au fond, le nihilisme, il est capable à la fois de nier le monde et de l'exalter dans le même mouvement. Et c'est vrai que c'est difficile à penser.
C'est très ambivalent, insaisissable.
Ouais. Et puis, il y a donc toutes ces œuvres dont nous avons parlé qui sont effectivement très choquantes et qui font réagir. Mais vous en avez des tas d'autres qui ont l'air très insignifiantes. Comme par exemple ce monsieur qui publie des livres où les nombres sont classés par ordre alphabétique. Vous ne vous sentez pas agressé par ce genre de pratique ou de publication. Et pourtant, quand on voit que c'est acheté par le FNAC, donc le Fonds National d'Art Contemporain, qui collectionne, c'est l'État qui collectionne avec nos impôts, quand on voit qu'on va consacrer des articles, des livres à ce genre de... On se rend bien compte que quand on parle avec respect de choses insignifiantes, on finit par tuer la notion de valeur. C'est encore une manière douce, soft, comme on dirait encore aujourd'hui, de vidanger les valeurs.
C'est de la confusion, puisqu'on ne distingue pas, on n'hiérarchise plus.
Ah, surtout, on ne hiérarchise plus. Oui.
Il n'y a pas du tout d'hiérarchie, même au sein de l'art contemporain.
Alors, si, il peut y avoir une hiérarchie dans le sens à celui qui a réussi la plus grosse provocation. Ça, oui. Par ce biais de la provocation, effectivement, du bruit et de l'agitation soulevée, ça peut être un thermomètre pour mesurer, effectivement, les artistes entre eux.
Est-ce que la musique, puisqu'on parle beaucoup des installations, il y a une installation dont on n'a pas parlé, et vous me direz d'ailleurs si ça rentre sous le label d'installation, cette fameuse langue d'une personne défunte qui était exposée, comment la qualifier ? Il y a beaucoup d'installations, il y a beaucoup de visuels de ce qui ressemble à des sculptures. Est-ce que la musique est touchée pareillement ?
Alors oui, il y a eu des tas d'associations de la musique dans des installations. Si vous allez voir l'exposition David Lynch actuellement à Cartier, vous avez un fond sonore qui est assez impressionnant. Et puis vous avez des petits boutons. Alors le public peut presser sur le petit bouton et vous avez là, je sais pas, un coup de tonnerre qui se déchaîne ou un bruit de ferraille ou je sais pas comme ça. Comme ça, c'est interactif, vous voyez. Bon, des fois, c'est pas... pourquoi pas, après tout. Mais je pense que la musique n'offre peut-être pas la même possibilité de transgression que l'image. Je crois que là, l'image offre, et particulièrement la civilisation occidentale, qui est une civilisation où l'image s'est développée. Et là, il y a un vivier extraordinaire de détournement. Les gens de l'art contemporain peuvent s'en donner à cœur joie.
Alors, cette langue,
ça sera
le dernier mot.
Cette langue, finalement, ça illustre bien cet art contemporain qui s'est même à un moment donné, qui continue de se penser presque comme une sorte d'art sacré. Qui a droit à ses reliques, puisqu'effectivement, c'est la langue d'un mort, c'est la langue d'un pinque qui était décédé. Sa mère n'avait pas de quoi payer un cercueil. Donc l'artiste, Teresa Margol, est allée voir la mère et lui a proposé le cercueil contre une partie du cadavre, je cite, qu'elle exposerait comme un ready-made. Donc, vous voyez, toujours, cette blague du champion, au fond, s'est transformée en anti-humanisme, quand même. Alors, je sais bien que pour eux, ils vont vous expliquer que pas du tout. Cette monstration de cette langue humaine, c'est une forme de rédemption pour ce punk qui échappe ainsi à l'anonymat et qui continue de tirer la langue au public. Et donc, l'exposition artistique est une forme de rédemption sociale.
Toujours cette forme, vous disiez tout à l'heure, de dénonciation du mal par le mal, oui. Comme pour les personnes qui creusent des trous, des tombes.
Et de glissement des mots, parce que vous, quand vous lisez ce genre de texte, vous apercevez que pour eux, au fond, qu'est-ce que la transcendance ? C'est la transgression.
C'est ça.
Il y a un glissement d'un mot à l'autre qui est tout à fait net.
Est-ce que cette œuvre a suscité une réflexion un peu plus approfondie de la part, je ne sais pas moi, d'autorité spirituelle ? Puisque là, vous avez prononcé le mot d'art sacré.
Oui. Ah bah, monsieur, Monseigneur Rouet.
Au sommet de la religion, là.
Oui, Monseigneur Rouet, d'ailleurs, l'avait retenu pour illustrer son livre sur l'Église et l'art d'avant-garde, qui était paru chez Albin Michel. Mais enfin, lui avait plutôt l'air de cautionner ce genre de choses en disant, bah, après tout, pourquoi pas, c'est l'art de notre temps. Je dois dialoguer avec l'art de mon temps.
La boucle est presque bouclée avec cette œuvre.
Oui.
En somme.
Oui. Oui, oui.
Entre ce que vous avez dit, donc Duchamp, le ready-made, la rédemption, le sacré, enfin...
Oui, et au fond, dans le geste de Duchamp, qui est de prendre n'importe quoi et de le consacrer à œuvre d'art, il y a une parodie de la transsubstantiation, du prêtre qui prend un morceau de pain et qui dit maintenant, ça n'est plus un morceau de pain, c'est le corps du Christ. Au fond, Duchamp s'est mis à faire fonctionner les œuvres d'art sur ce modèle-là. Donc effectivement, la boucle
est bouclée. C'est très intéressant comme idée, effectivement. Cette transformation invisible. Parce que les artistes contemporains peuvent très bien dire, selon l'argumentation que vous avez développée, que c'est le milieu artistique qui décrète l'œuvre, que c'est le prêtre qui décrète
tout
ce changement de substance.
Tout à fait. Alors après, évidemment, il y a un retour sur l'Église, parce qu'effectivement, on dit, bah, à ce moment-là, qu'est-ce que la foi ? C'est ce que les chrétiens vont décider que c'est, point. Donc on peut faire évoluer le contenu de la foi, le credo, comme on veut. Hein, donc effectivement, ça n'est jamais neutre. À chaque fois, le détournement revient toujours sur ce qui a été détourné.
Lénine disait, je crois, toutes les lignes de démarcation dans la société sont relatives. Tout est relatif et même dans la nature sont relatifs. On est dans une relativité absolue.
Absolue. L'art contemporain, c'est l'art... Duchamp parlait de nominalisme à propos de ses pratiques artistiques. On peut dire que c'est l'art nominaliste d'une société relativiste.
Qui a encore de beaux jours devant lui, vu la société est aujourd'hui.
Vu effectivement le fait qu'il y a ces accointances avec le mercantilisme et qu'une bonne partie de la population, y compris les intellectuels, se refuse à prendre la mesure de ce que c'est.
Très peu de critiques. Je renvoie au Mirage de l'art contemporain aux éditions de la Table Ronde. Très peu de critiques. Vous avez cité Jean Clerc tout à l'heure. Mais somme toute, une prise de conscience globale, ça n'existe pas pour l'instant.
Pas encore. Mais je pense que c'est vraiment la voie. Et en plus, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que on peut dire que c'est une forme de totalitarisme creux, puisque normalement, le totalitarisme s'attaquait aux valeurs existantes pour les remplacer par d'autres. Là, c'est je m'attaque aux valeurs existantes pour s'attaquer aux valeurs existantes. C'est ça que c'est un peu nouveau comme forme de totalitarisme. Mais
c'est un peu Guy Debord qui parlait totalitarisme mou, totalitarisme soft. Là, totalitarisme creux, vous inventez une nouvelle notion. Un totalitarisme, mais qui ne s'impose pas comme tel.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, totalitarisme en creux. Alors qu'on est habitué à combattre les idéologies sur ce qu'elles proposent, là, l'art contemporain ne propose rien, sinon une vidange générale des valeurs. C'est pour ça qu'on est toujours déstabilisé. Parce que c'est justement cet aspect creux, vide, qui nous surprend. Et donc, ce totalitarisme en creux a une autre particularité. Il fait l'économie de la persécution physique. Et c'est pour ça, justement, qu'on a du mal à le voir. Parce que dès qu'on s'attaque à vous physiquement, vous réagissez, vous voyez qu'il se produit quelque chose d'anormal. Là, on est plutôt sur le mode de la subversion, c'est-à-dire subvertere, agir par en dessous. Et alors, ce qui fait à la fois sa force, parce que justement...
Il est invisible, on peut se plaindre auprès
il est diffus, voilà. Il a certains aspects souriants. Ce qui fait donc sa force, c'est aussi son talon d'Achille. Parce que, justement, il suffit de lui résister en faisant l'analyse de ce qu'il est. Il suffit de refuser d'être complice. L'art contemporain force à consentir celui qui ne peut pas le contredire. Donc le seul effort à faire, c'est de le comprendre et de le dire.
Et tout l'effort d'éducation derrière, évidemment.
Voilà, bien sûr. De le dire.
Exigé.
De le dire.
Eh bien, on va le dire justement avec les mirages de l'art contemporain. Aux éditions de la Table Ronde, avec vous, Christine Surgens. Merci d'être venue nous donner ce panorama extrêmement approfondi de l'art contemporain. Et on va entrer dans cette méditation et cette déconstruction de l'art contemporain, puisque c'est un terme que vous avez employé aussi, le mot de déconstruction, avec cet essai « Les mirages de l'art contemporain » aux éditions de La Table Ronde. Merci.
Merci à vous.